Je vais essayer de l'aborder sous deux angles. Un premier angle qui est ce que vous avez tous et toutes noté, c'est-à-dire cette orientation que l'ensemble de nos sociétés occidentales ont prise depuis quelques années, qui est une orientation clairement tournée vers les technologies de l'information et de la communication, dont on ne cesse de nous rappeler les grandes transformations sociales, managériales, organisationnelles dont elles sont à l'origine, et puis essayer au travers de cela d'essayer de déceler, d'identifier ce qui fait sens, la signification, essayer de trouver quelques invariants de manière à ne pas céder à la tentation de la mode ou un engouement hâtif pour une excitation généralisée pour des technologies qui devraient tout changer. Bien. Donc c'est l'exercice auquel je vais essayer de me livrer en introduction, et après on passera au regard des acteurs du marché, tant en ce qu'elles peuvent changer aujourd'hui et ce qu'elles peuvent changer demain. Alors même si je vous invite volontiers à ne pas céder à la tentation de la modernitude, pour prendre un terme qui plairait à qui on sait, je vous emmène quand même sur ma page Facebook, ce qui permet de voir les commentaires que ces gens très professionnels ont la gentillesse de déposer dès qu'on a le dos tourné, puisque je te remercie infiniment, cher Henri, on se rend le sens de la solidarité confirmé par Valérie. Je vous remercie, Véronique et Santiago, d'avoir évité d'en rajouter une couche. Non, simplement, je voudrais, si je commence par cette petite blague, c'est simplement pour vous emmener à formuler un constat. L'ensemble des fonctions ressources humaines, et je vais vous montrer une petite vidéo qui l'illustre, l'ensemble de la fonction RH est confronté depuis quelques années à une déferlante de technologies, que ce soit le cloud, etc. Enfin, je vous passe tous les termes, devant lesquels, à la fois, elle est fascinée. Fascinée parce qu'on voit bien l'importance des transformations sociétales dont ces technologies sont à l'origine. Et également, une forme d'inquiétude. Alors, une forme d'inquiétude parce que si on est fasciné par les transformations dont on sent qu'elles sont inévitables, on est inquiet parce qu'on sent bien que tout ceci se heurte à un certain nombre de règles, à un certain nombre d'habitudes, voire même de modèles d'organisation, peut-être même des idéologies dans certains cas, enfin quand les modèles deviennent très dominants, on peut considérer que ce sont des idéologies. Et intuitivement, les directions des ressources humaines sentent bien que lorsque un usage commence à être massif, alors c'est aux règles de s'adapter. Et ça inquiète forcément l'ensemble de la communauté des ressources humaines. Et alors, pour essayer d'illustrer ce propos, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui se passe en 1945. Alors, ça va me permettre de remonter ma timeline jusqu'à 1945. Ce qui montre à quel point les technologies de l'information sont parfois bluffantes. Aux États-Unis, à l'époque, il y avait une loi qui protégeait le citoyen américain contre toute intrusion dans sa propriété privée. Et la définition de la propriété privée était régie par un texte, un vieux texte de loi qui datait d'une centaine d'années, qui disait « la propriété privée, c'est tout ce qui est en dessous du sol, et c'est tout ce qui est au-dessus du sol de façon illimitée ». Et vous vous doutez bien qu'un jour, cette définition, enfin cette référence à un texte de loi très ancien, n'a pas résisté à une invasion technologique nouvelle, qui est l'aviation commerciale. Donc je remercie Valérie pour le joli dessin qu'elle nous a fait, qui témoigne de tout son talent artistique. Et donc comme on est aux États-Unis, il y a naturellement deux petits malins qui ont dit « bah oui, mais au sens de la loi, les avions qui passent au-dessus de mon terrain sont des intruders ». Et par conséquent, ils violent ma propriété privée, donc je suis habilité à faire un procès. Alors il y a deux petits malins, deux fermiers, les frères Thomas Lee et Tiny Cosby, ont intenté un procès à une compagnie aérienne au motif que les avions étaient des intruders. Et que, évidemment, ça stressait leurs poules, leurs volailles, etc. Et que du coup, ils étaient en droit de demander des dommages et intérêts absolument colossaux parce que ça ruinait leur exploitation. Alors évidemment, quand on raconte ça comme ça, on se dit c'est n'importe quoi. Et c'est ce qu'a dit le juge Douglas, qui a rendu le verdict. Le juge Douglas a dit « ceci ne résiste pas au sens commun ». Voilà, c'est tout. La réalité de la vie est telle que ce vieux texte de loi, il ne vaut plus rien, et donc il va falloir le changer. Et donc ils ont changé le texte de loi. Et donc c'est bien l'illustration concrète que lorsqu'un usage prend une ampleur telle, qu'il est contraire ou qu'il est plus cohérent, alors je fais aucune allusion ou à Adopi ou des choses comme ça, je fais aucune allusion, c'est pas le sens de mon propos, mais à un certain moment, c'est à la loi et aux règles de s'adapter à la réalité de la vie, pour le meilleur et pour le pire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas le sujet, c'est un fait. Alors justement, je pense qu'à un moment où on parle énormément de technologies de l'information, on nous explique que celles-ci vont transformer nos vies, Je vous renvoie au livre de Michel Serres, qui nous en a donné une vision anthropologique, philosophique, qui est assez excellente. Mais on est en droit de s'interroger sur quels sont les usages aujourd'hui qui ont pris une ampleur telle dans la société civile, voire dans les entreprises, que l'ensemble des règles auxquelles nous sommes habitués, voire des lois, va être obligé à s'adapter dans le temps, dans les années à venir. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, vous en savez beaucoup plus que moi sur la manière dont les technologies transforment votre quotidien. Je voudrais simplement m'arrêter sur deux ou trois points cruciaux. Alors évidemment, on parle des médias sociaux, c'est une évidence que c'est là le point d'achoppement. Et donc il y a quelque chose de particulier sur cette histoire, qui n'est pas du tout une révolution technologique, il n'y a absolument aucune révolution techno derrière les médias sociaux. En revanche, il y a une révolution d'usage. Révolution d'usage, où finalement, ceux qui étaient des consommateurs d'informations deviennent des producteurs d'informations. Hein, d'où le terme consommateur qu'on a vu assez régulièrement. Et alors ça encore, pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'insurger de dire, ben oui, on est dans une société civile qui est en train de troquer la notion qui passe de l'autorité de la compétence à l'autorité de l'opinion. C'est-à-dire, voilà, on veut être liké, on veut avoir des followers, c'est le nombre. Très bien, ça fait pas la compétence, hein, ça fait pas plus d'informations, plus de données, ne fait pas forcément plus d'intelligence, on y reviendra après. Mais qu'on le veuille ou non, ceci est une forme de démocratisation de la parole, et quand on donne la parole aux gens, ils la gardent. Voilà. Et par conséquent, ça c'est un mouvement sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière. Là encore, qu'on le veuille ou non, c'est une orientation majeure de la société civile. Alors, la conséquence de cette orientation, c'est que puisque les gens s'expriment, ben, ils laissent des traces. Le deuxième phénomène dont vous avez tous entendu parler, c'est le big data. C'est-à-dire que, alors évidemment, on veut être connu, mais on ne veut pas s'exposer. Hein, on veut être visible, mais on ne veut pas sortir du bois. On a tous ces antagonismes et ces incohérences à gérer. Mais néanmoins, la deuxième conséquence, et ça me semble être un invariant, un fait majeur assez important, c'est que ce phénomène de liberté d'expression, qui est une démocratisation de la parole, a une deuxième conséquence, c'est que les gens sont plus visibles, ils laissent des traces. Et donc nous avons une masse de données qui est absolument considérable à exploiter. Elle est encore assez peu dans les ressources humaines, mais on verra ces aspects-là avec vous après. L'une des conséquences, d'ailleurs, c'est la porosité des frontières. Le phénomène du BIOD, que tout le monde connaît, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire le fait que les collaborateurs amènent leurs propres outils avec leurs propres logiciels à l'intérieur de l'entreprise. Alors, 88% des cadres utilisent leur techno perso au bureau. Donc, porosité des frontières. Porosité des frontières qui va beaucoup plus loin. Quand on regarde le développement du télétravail, qui a eu un peu de mal à démarrer en France, et quand on demande à des jeunes, 70% des jeunes considèrent que la référence au bureau comme espace physique n'a plus aucun sens. Et donc on assiste quoi ? Un deuxième phénomène, qui est la porosité des frontières d'identité, mélange des statuts. Il y a de plus en plus de coexistence de statuts extrêmement divers dans l'entreprise. Le consultant, le CDI, l'intérimaire, l'entreprise de BPO, avec parfois le consultant qui en sait plus que le collaborateur en interne. La porosité des frontières de temps, bien évidemment, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ou en tout cas cette frontière-là qui ne fait plus sens. Hein. Et puis aussi les frontières d'espace, puisque la mobilité se développe et le télétravail aussi. Alors, si on essaye de regarder véritablement ce que sont les invariants principaux des technologies de l'information aujourd'hui, deux phénomènes que vous avez tous observés. Le premier que j'ai évoqué, qui s'appelle une forme de démocratisation au droit d'expression, là on avait déjà vécu ça au début des années 2000 avec l'ouverture de nos SIRH. Hein, et on passait d'une logique un peu 1.0 à 2.0 parce qu'il faut bien mettre un vocable ou un symbole marketing sur ces évolutions techno-sociétales. Et puis une deuxième évolution qu'on pourrait qualifier de 3.0, puisqu'au-delà de l'ouverture du droit à l'expression, c'est l'ouverture de l'entreprise qui ne peut plus être, comment dirais-je, conçue comme un espace clos, étanche à son environnement, mais en interaction permanente avec son environnement. Alors, quand on est dans les technologies, on vous parle d'écosystème, mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi tous ces phénomènes-là. Et alors, pour autant que ceci soit des véritables invariants, ou en tout cas les vraies conséquences, ou les conséquences vraiment fondamentales des technologies sur les entreprises, elles continuent, et ce monde du digital, au sens le plus large du terme, continue à nous fasciner. Et il continue à nous fasciner vraisemblablement parce qu'il incarne, à nos yeux, l'image d'une entreprise faite de coopération naturelle, où tout d'un coup, la manière de travailler devient fluide, où tout d'un coup, l'information est transverse, où tout d'un coup, les processus de décision s'affranchissent de la verticalité de nos pyramides. Enfin, genre un monde de rêve, quoi. Hein, et qui est une vraie représentation de l'esprit. Et ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, c'est la thèse que je défends, hein, en l'occurrence, hein, c'est que c'est une représentation de l'esprit. Représentation de l'esprit qui colle à un modèle qu'on connaît tous, qui est un modèle d'entreprise. Alors, dans le monde californien, dans les start-up californiennes, on appelle ça la modernité liquide. C'est-à-dire l'entreprise qui s'organise toute seule, avec peu de salariés d'ailleurs, hein, qui devient en plus non plus un lieu d'intégration de compétences régi par des contrats de travail, mais un lieu d'intégration de services. Et c'est un monde qui... c'est une représentation d'un monde dont on pense qu'il a tourné sa capacité à être meilleur que ses concurrents par l'intermédiaire de l'innovation, où cette innovation s'appuie sur la richesse de son capital humain. Voilà, c'est le modèle dit post-industriel auquel tout le monde s'identifie, et on se dit qu'on est en train de changer. Et on oppose ce modèle, un modèle qu'on connaît par cœur, qui est le modèle industriel classique issu du taylorisme, qui est un monde qui a forgé, si j'ose dire, qui a forgé sa compétitivité sur la productivité, c'est-à-dire sur j'économise les ressources que j'emploie pour être meilleur que mes concurrents. D'où l'expression ressources humaines, d'ailleurs. Et ces deux mondes qu'on oppose. Alors qu'en fait, la réalité à laquelle les entreprises sont confrontées, de façon extrêmement prosaïque, c'est pas qu'il y a un monde de l'innovation et un monde de la productivité, c'est qu'on a besoin de faire les deux en même temps. Et c'est là la grande nouveauté de ces 10 dernières années, c'est que fut un temps, on pouvait mettre les délais en série, si j'ose dire. C'est-à-dire, je fais de l'innovation et je mets dans un cycle de productivité. Aujourd'hui, l'ADN même de l'entreprise doit être capable d'avoir ces deux antagonismes réunis à l'instant T. Et pour le coup, là, on est un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'on est en train de rêver d'une forme d'agilité collective. Alors, vous mettez les mots que vous voulez là-dessus. Fut un temps, on appelait ça l'organisation apprenante. Peut-être même le knowledge management, c'était déjà ça, dans les années 90. On appelle ça l'intelligence collective. Les Américains appellent ça l'entreprise liquide. Enfin, on a plein de concepts pour baptiser ça, mais c'est quoi? C'est simplement la capacité d'une organisation, en tant que collectif, à s'adapter à des réalités de marché qui sont sans cesse changeantes, et dans ce changement incessant, d'être capable de faire preuve de productivité et d'efficacité. Donc une combinaison dans son ADN, et à l'instant T, de deux modèles dits antagonistes, un modèle d'économie de ressources, Struggle for Life, à court terme, et un modèle d'adaptation fondé sur l'innovation. Alors bien évidemment, ça c'est un rêve qu'on a depuis que l'entreprise existe. C'était juste possible de dissocier les deux parce qu'on était dans des environnements stables et prévisibles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je trouve que là, je voudrais formuler trois remarques au regard de ça qui me paraissent importantes. Parce que je pense que c'est là où les technologies nous emmènent peut-être sur une fausse piste qu'il faudrait éviter de manière à pouvoir profiter véritablement des leviers qu'elles nous offrent et éviter une forme d'engouement un petit peu hâtif. Première remarque que je voudrais faire, alors celle-là on la connaît depuis des millénaires, la somme des intelligences individuelles ne fait pas tout à fait l'intelligence collective. Dit en d'autres termes, la coopération n'est pas quelque chose d'extrêmement naturel chez les individus. Ça fait des millénaires qu'on le sait. Alors donc, quand on pense que parce que l'on dispose des technologies, tout d'un coup, la coopération, la transversalité de l'information, la fluidité des processus, la fluidité des relations, etc., va devenir complètement naturelle, c'est juste une vue de l'esprit. Deuxième enseignement qu'on connaît au moins depuis les années 90, avec le knowledge management, ce qui s'était déjà planté pour ces raisons-là. Hein, donc on fait du knowledge management, mais alors là, pour le coup, on ne tire pas trop les enseignements du passé. C'est assez simple, c'est que les informations ne font pas la connaissance, et de la connaissance, ce n'est pas de l'intelligence. Alors, il ne faudrait pas que Big Data devienne Small Brain, hein, pour dire les choses un peu caricaturalement. Les données, c'est brut. L'intelligence, ce sont des comportements adaptés à des situations en fonction d'objectifs qu'on se donne. Donc là, on a un deuxième enseignement. Il ne faudrait pas que le développement massif des technologies nous donne l'illusion de croire que la mise à disposition massive de données va tout d'un coup nous rendre intelligents et nous affranchir de l'exercice de l'intelligence. Dit en d'autres termes, big data sans culture, on n'a pas progressé. Et puis, je voudrais revenir sur cette idée centrale que j'évoquais un petit peu juste avant, c'est qu'il n'y a pas un modèle vertical et de l'autre côté un modèle horizontal. Il n'y a pas le monde de la productivité, le monde de l'innovation. On n'est pas dans un changement de paradigme avec avant c'était pas bien et maintenant ça y est, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Non, la réalité prosaïque des entreprises, c'est les deux en même temps, vraiment, vraiment. Et ça, c'est une difficulté qui a, sur un plan académique, on en parle depuis les années 80, entre l'exploration de ressources nouvelles et l'exploitation de ressources dont on dispose. Les gens qui viennent des sciences du vivant travaillent là-dessus. Hein, parce que la nature même du vivant, c'est d'être capable, à très court terme, de faire preuve d'efficacité, voire de brutalité pour survivre, et en même temps, dans le temps, hein, c'est sa capacité d'adaptation, donc sa souplesse, qui fait que ça évolue. Hein. Ça, c'est une question qu'on n'a pas réglée. Et quand on regarde, je vous donne juste pour cette référence-là, quand on lit le dernier rapport d'IBM, le Global CEO Study, 2012, on se rend bien compte que les modèles hyper-rationnels, je crois que c'est un des patrons de la Société Générale qui dit ça, nous sommes allés trop loin dans la croyance dans les modèles hyper-rationnels. Et donc, du coup, entre contrôle et ouverture, il va falloir rééquilibrer le balancier. Alors la difficulté, c'est qu'on a en tête des modèles de représentation. C'est-à-dire que quand on veut innover, on sait qu'il faut ouvrir, et quand on veut être productif, on sait qu'il faut fermer. Très bien, et comment on ouvre et on ferme en même temps à l'instant T? Là, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de modèle. Et dès qu'on n'a plus de modèle, on est paumé. Et on est paumé parce qu'il faut être intelligent. Et c'est plus difficile d'être intelligent que d'utiliser des modèles. Et je pense que le fabuleux défi auquel on est confronté pour les années à venir dans nos entreprises, fondamentalement un défi de transformation. Alors, c'est un mot à la mode, tout le monde met transformation comme étant une sorte de claim, parce que c'est un moyen de dire ça change. Mais non, ça change pas, il va falloir devenir intelligent, ça c'est, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait nouveau. Simplement, là où on pouvait se contenter de faire appel à des modèles deviennent parfois des idéologies, il va falloir effectivement redonner la place à l'autonomie des acteurs. Et l'enjeu majeur des années à venir, c'est une innovation managériale, fondamentalement. Alors, il y a des groupes hein, qui font ça. C'est pas simplement l'imagerie des entreprises californiennes, start-up dans le domaine des technos. Je vous donne juste un exemple et je vous invite à aller le regarder sur internet, il y a plein de trucs. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, ça, c'est le groupe Pou. C'est une biscuiterie. Alors donc c'est un univers qui fait, enfin dans le domaine des biscuits, on n'est pas dans les technologies de l'information, d'accord? Et ils sont leaders français pour les marques distributeurs. Donc c'est un environnement, il faut être productif, rentable. On n'est pas juste là pour s'amuser. C'est une entreprise qui n'a pas de comité de direction, qui a fondé l'intégralité de son développement, qui marche dans les faits, hein, c'est-à-dire de la croissance, des résultats financiers de haute qualité, et qui a fondé tout son développement sur l'autonomie des acteurs. Et alors c'est très intéressant parce que j'ai vu dans une conférence récemment l'un des patrons de ce groupe, qui s'appelle Jérôme Introvigne, et il passait une petite vidéo. Je crois qu'il est, je sais plus quel est son titre, Innovation Manager, je crois, un truc comme ça. Et donc, il passait une petite vidéo d'un des collaborateurs qui travaille à la chaîne, chez eux. Et ce type disait, donc, un type d'une cinquantaine d'années qui manifestement connaît bien son métier depuis des années. Et il disait, vous voyez, avant, quand on était vachement organisé, il fallait que je fasse ce qu'on me demandait. Maintenant, je fais pas ce qu'on me demande. Alors là, il y a la moitié de la salle qui rigole. Et ouais, parce que maintenant, je suis obligé de faire ce qui est bien. Je sais pas si vous voyez la force du propos quand même, hein, c'est pas anodin. Et le défi auquel on est confronté aujourd'hui dans nos entreprises, c'est ça. C'est-à-dire retrouver l'autonomie des acteurs qui font que l'entreprise redevient un bien commun et que tout le monde œuvre pour ça. Et ça, ça s'oppose un peu au modèle que l'on connaît. Alors évidemment, ce défi que certains appellent l'inoductivité, c'est-à-dire innovation-productivité en même temps, c'est d'abord un défi, vous l'avez bien compris, qui est un défi de politique ressources humaines, qui est un défi organisationnel, qui est un défi managérial. Pour autant, les technologies ont clairement un rôle à jouer là-dedans. Elles ouvrent tout un champ des possibles qu'on ne pourrait pas investiguer en leur absence. Ne serait-ce que pour la fonction RH, hein, en étant extrêmement prosaïque, ça lui redonne la capacité peut-être à se réinterroger sur le fond de sa mission en étant plus productive elle-même sur un certain nombre de processus qui sont relativement à faible valeur ajoutée. Et même sur un plan managérial, sur le plan des comportements individuels des collaborateurs, sur le plan des comportements collectifs, les technologies ont très clairement un rôle à jouer, à la condition que nous ne subissions pas les effets de celles-ci, à la condition que nous ne partions pas aveuglément sur une sorte de, là encore, d'engouement généralisé pour, comme à une certaine époque, il y a des RH qui, je me souviens, dans les années 2000, déjà dans ce type d'instance, je me souviens de des RH qui disaient « Ah, il me faut mon intranet ». Ça veut dire quoi ? pour faire quoi? Enfin, c'est pas une foule mon intranet, c'est pas... Voilà, elle a une foule mon 2.0. Alors à l'époque, on affublait le moindre truc d'une sorte d'arrobas comme symbole de la modernité. Maintenant, on fait du 2.0. Si vous voulez lever des fonds aujourd'hui, faites du Green Biotech 2.0 et c'est bon, ça marche, vous levez des fonds. Là, si vous dites, moi je fais de l'informatique pour aider les DRH, ça sera juste un petit peu plus difficile. Donc on a un fabuleux défi, qui est un défi qui a une portée sociétale, hein, puisque c'est l'enjeu de la croissance des économies développées qui se joue là, si toutes les entreprises s'y mettent. On a un enjeu qui est essentiel devant nous, c'est un enjeu organisationnel, managérial et humain, porté par les managers et par les directions des ressources humaines, à l'intérieur desquelles les technologies jouent très certainement un rôle clé, parce qu'elles transforment beaucoup de choses, si on sait avoir un regard lucide sur ce qu'elles permettent et sur ce qu'elles ne permettent pas. Et c'est à ça que j'invite la table qui est ici présente, avec toute son expérience d'abord du marché, tout simplement, ou son expérience opérationnelle en entreprise comme Charles-Henri, de nous expliquer un peu quelle est votre vision là-dessus. Alors je conclurai juste sur un point, on s'amuse tous avec ces acronymes de... Le R de DRH qui passe de la ressource à la richesse au réseau. Revenons aux choses simples. Ce dont on parle fondamentalement, c'est de relations humaines. C'est-à-dire placer l'homme au cœur de l'entreprise, ce qui ne veut rien dire en soi, hein, placer l'homme au cœur de l'entreprise. Réfléchissons un peu à ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire grand-chose. L'enjeu est celui-ci. Et les technologies sont un facteur de développement de ça. Donc c'est un petit peu l'introduction que je voulais faire sur ce thème pour qu'on prenne un petit peu de distance et puis qu'on puisse s'interroger maintenant sur, bah, puisqu'effectivement elles sont une forme de levier très concret et très réel, je voudrais qu'on aborde ça sous deux angles. Quelles sont les transformations concrètes qu'on peut observer aujourd'hui? Et ce sera la première question que je poserai à nos invités. Et puis on passera une partie peut-être un petit peu plus prospective ensuite. Et compte tenu de ces transformations qu'on observe aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre demain? Quels sont les points qu'on peut d'ores et déjà anticiper? Ou même quels sont certains risques qu'on peut anticiper? Parce qu'il peut y avoir des utilisations tout à fait abusives des technologies, on a plein d'exemples tous les jours. Et donc du coup, voilà comment je voudrais structurer cette table ronde. Alors, je vais commencer par donner la parole à Véronique, peut-être, si tu peux nous donner ton regard sur ce sujet.
Merci Patrick pour cette introduction sur les enjeux du numérique. Alors là, si vous voulez, moi je vais porter un regard sur finalement les projets concrets que nous menons dans les entreprises pour finalement parler au nom de l'ensemble de nos clients pour vous indiquer quels sont les projets que nous menons, qu'est-ce qui se passe dans chaque entreprise, quelle est la réalité en fait par rapport à ce que Patrick nous a annoncé comme étant le champ des possibles. Comment les entreprises aujourd'hui, au moins les entreprises que je connais en fait, utilisent en fait ces nouveaux usages du numérique. Alors peut-être en introduction, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui le contexte est vraiment favorable pour pouvoir déployer des projets numériques dans les entreprises et dans les DRH. Eh bien pourquoi? Parce que d'abord tout simplement les technologies sont prêtes. Les outils sont prêts à fonctionner avec des solutions nomades. On peut équiper toutes les DRH avec des smartphones, des tablettes. On peut dématérialiser, on peut ouvrir des coffres-forts. Donc les technologies sont là pour accompagner les politiques RH. Donc ça, c'est un premier facteur qui est important, hein, voir avant de commencer à déployer des usages numériques, c'est d'abord de sécuriser et d'être sûr que les technologies vont être capables d'accompagner ces politiques RH. Deuxième phénomène qui est en fait aussi un feu vert, votre feu vert pour pouvoir commencer ces projets, c'est l'usage qui est aujourd'hui, l'usage numérique est complètement démocratisé. Tout le monde aujourd'hui utilise un smartphone, une tablette, y compris dans des populations qui sont finalement des populations aussi compensées, oubliées, des générations, soit des générations seniors, soit des populations qui ne sont pas forcément toujours très bien lettrées. Et bien même ces générations-là, même ces personnes-là, utilisent aussi des outils numériques et on est des fois vraiment surpris de voir qu'elles sont aussi en attente de ces usages numériques. Donc la fracture numérique dont on parlait en pensant que la génération Y était la seule à pouvoir finalement utiliser ces outils numériques, eh bien c'est faux finalement, c'est vraiment une fausse idée finalement, parce que tout le monde attend et tous les collaborateurs d'une entreprise aujourd'hui sont en attente des usages numériques. Donc ces facteurs font qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent déployer, peuvent mettre en place des outils numériques. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises? Alors, premièrement, il y a au niveau de la politique d'équipement des outils nomades, un phénomène qui est en train de se passer assez intéressant. Il y avait au départ, dans les premières générations des outils nomades, on va dire une attribution de ces nouveaux outils un petit peu à la hiérarchie, c'est-à-dire un petit peu comme on attribue une voiture de fonction. Finalement, on équipait d'abord le management avec des premiers outils numériques, des premiers smartphones ou maintenant les tablettes. Alors, bien souvent, cette politique aujourd'hui est complètement changée, puisqu'on voit que les entreprises maintenant raisonnent à l'usage. Et donc, elles ont une approche beaucoup plus pragmatique, finalement, de la valeur, par apport de valeur, de façon à pouvoir équiper au bon moment, à la bonne personne et à la bonne fonction dans l'entreprise, des outils numériques. Donc, il n'est pas rare de voir maintenant, finalement, tous les commerciaux dotés de tablettes pour pouvoir, sur le terrain, finalement, capter des informations sur leurs clients, mais aussi remonter des informations pour les managers qui sont sur le terrain, qui vont intéresser directement le système d'information RH, parce qu'il n'est pas rare de voir, par exemple, la collecte des plannings ou des horaires réalisés sur un chantier par le chef de chantier. Donc là, on voit qu'on est dans la déclinaison concrète et pratique d'usage numérique et d'usage de ces nouveaux outils nomades qui, avant, sans les technologies, finalement, on perdait du temps et on avait des process RH très longs de façon à pouvoir capter ces informations. Donc on voit ici tout de suite la valeur ajoutée qui sont aujourd'hui bien mesurées par les DRH et par les fonctions par les directions générales, qui résonnent en apport de valeur en maîtrisant finalement le périmètre de leur usage numérique pour des populations qui sont en apport de valeur. Voilà. Donc ça c'est très important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Un autre phénomène aussi, c'est, j'appelle ça le décloisonnement, Patrick en a parlé aussi en introduction, vous êtes tous maintenant au courant des intranets qui sont déployés maintenant dans les entreprises, eh bien, on voit aussi, en fait, le fonctionnement de systèmes d'information RH qui ne fonctionne plus en silo comme c'était le cas avant, avec l'outil pour équiper la gestion d'information, l'outil pour équiper le développement de carrière, l'outil pour équiper la paye. Là, on voit bien que les directions ont mis en place des outils totalement transverses dans les entreprises, de façon à pouvoir créer du lien déjà dans la fonction RH en elle-même. Hein. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de mettre en place des process totalement uniformisés. Par exemple, je demande une formation, j'accède à un catalogue de formation, pas forcément interne à l'entreprise, mais aussi en externe. Donc je peux accéder à des informations qui sont quelque part dans le nuage. Je récupère ces informations, je fais ma demande de formation, qui est validée par mon manager quelque part dans l'entreprise. Cette formation est inscrite directement sur mon planning d'absence pour mon temps de travail, etc. Donc on voit ici que pour un process qui est finalement simple et qui existe dans toutes les entreprises, eh bien on a une multitude d'acteurs qui, aujourd'hui, peuvent tous participer dans des systèmes intelligents, donc dans des intranets ou dans des réseaux sociaux ou dans des portails d'entreprise, peuvent tous participer et permettre en final à l'entreprise de gagner en productivité, de sécuriser des process RH, et de gagner en sécurité sur les données RH qui sont maintenant archivées dans les entreprises. Voilà peut-être en introduction sur ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les projets actuels.
Merci Véronique. Bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas de s'apercevoir que les technologies ne sont pas réservées au digital natif, que je trouve plutôt assez rassurant. Santiago, est-ce que tu fais le même type d'observation ou quel est l'éclairage que tu peux nous donner sur la réalité?
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive, ce qu'on est en train d'utiliser de plus en plus sont des plateformes logicielles, les plateformes logicielles et des services distribués entre différentes entreprises et connectés en fait, qui connectent les différentes entreprises entre elles dans leur prestation de services. La technologie en fait est en train de changer aussi, donc pas seulement la manière avec laquelle on obtient des données, mais aussi la manière avec laquelle on implante la technologie dans l'entreprise. classiquement, il y a encore, on va dire, 5 ans, quand une entreprise faisait l'acquisition d'un logiciel, il mettait en œuvre ce logiciel, il avait une certaine dose de maîtrise d'ouvrage qui l'aidait à mettre en œuvre son projet, et puis ensuite le projet était là, il fonctionnait tous les jours, ou pas, mais enfin on l'oubliait pendant 4-5 ans, ou 3 ans, jusqu'à une nouvelle version, un nouveau saut, l'achat d'un nouveau logiciel. Tout ça est complètement changé aujourd'hui. On va souscrire un service logiciel, souvent accompagné d'autres services, sur une plateforme dans le cloud. Et puis, cette plateforme, toute l'année, elle évolue. Alors, certains fournisseurs la font évoluer tous les 3 mois, d'autres la font évoluer tous les 6 mois. Rarement avec une fréquence plus longue. Et donc, le DRH est face à quelque chose qui a des nouvelles fonctionnalités. Il est lui-même moteur de ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Ça évolue en fonction du marché, en fonction des besoins des différents utilisateurs. Et du coup, toute la méthode de mise en place et le support qui est nécessaire aux différents utilisateurs à l'intérieur de la société change, puisqu'on est face à quelque chose qui va changer, qui va bouger. Et donc, cette fameuse assistance maîtrise d'ouvrage dont on parlait souvent, sur ce TMOA qui venait tout au début d'un projet puis qu'on oubliait pendant 5 ans, elle devient pratiquement, le besoin devient pratiquement constant. C'est-à-dire tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va avoir des choses, il va falloir regarder toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent, ces nouvelles choses dont on a besoin, puisqu'on y a une fois même pensé, on a demandé au fournisseur de travailler sur une fonctionnalité de planning, et puis ça vient, et on vient l'enrichir. La plateforme est en train de se marier avec d'autres prestataires de services à l'intérieur du marché et vient d'un seul coup plein de catalogues de formations nouveaux qui arrivent dans ce qu'on utilise. Et il faut savoir en profiter. Il y en a des centaines d'utilisateurs, quelquefois quelques dizaines, souvent des centaines ou des milliers d'utilisateurs qui sont face à de nouvelles choses qui arrivent. Et des nouveaux au manager, il faut commencer à leur ouvrir les yeux en disant « Bah oui, aujourd'hui, là, ma plateforme, la plateforme de formation, elle vient de s'inscrire à l'intérieur d'un nouveau fournisseur qui vient apporter un nouveau catalogue et des nouveaux contenus, et donc il faut s'y intéresser. » Donc en fait, le DRH et son service devient d'un seul coup le vecteur et le lien moteur entre des utilisateurs qui utilisent un certain nombre de services, et il vient apporter ce lien entre ce qu'on fait chez les prestataires de services et les besoins internes à l'entreprise. Donc la maîtrise change, le modèle change d'un modèle Big Bang à un modèle continu. Et donc l'apport, en fait, qui est avant tout, qui était avant tout informatif, on fait tous partie ici de ce que les Anglais appellent information technology, on est avant tout on fabrique des informations, on n'est pas moteur dans la révolution du process RH. On est moteur dans l'apport de la technologie au RH, eh bien toute cette relation va changer, est en train de changer, et c'est quelque chose qui est important. Donc dans le Bring Your Own Device, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait principalement, c'est apporter de la productivité. Je pense que l'ARH est encore aujourd'hui, ça va changer, mais est encore aujourd'hui focalisé sur sa productivité. Malheureusement, je le dis souvent à beaucoup de directeurs RH, c'est probablement, dans beaucoup d'entreprises, le service le moins productif. Je suis désolé, vous êtes sûrement beaucoup dans le département RH, mais c'est encore le service le moins productif et souvent le moins équipé technologiquement. Et là, on est encore très focalisé aujourd'hui chez nos clients dans un aspect productif. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'on s'équipe, parce que la technologie arrive. Ça ne va pas durer très longtemps, mais on est encore dedans. Ensuite, sur l'utilisation vraiment concrète du cloud computing, aujourd'hui, la vraie révolution, on va dire, depuis 1 an, 2 ans, c'est le recrutement. En fait, on a parlé beaucoup de technologies de recrutement, qui apportait pas grand-chose, ça simplifiait, ça automatisait un certain nombre de processus administratifs. Mais là, vraiment, depuis que les plateformes de genre LinkedIn, Viadeo se sont mis à rentrer dans le marché du recrutement, on est en train d'apporter quelque chose sur quelque chose que personne n'avait résolu technologiquement, qui est ce que les Anglais appellent le sourcing, c'est-à-dire la possibilité d'attaquer un recrutement directement à la source, c'est-à-dire au lieu de publier une annonce et puis d'attendre tranquillement que les gens arrivent. On se met à rechercher sur des bases de données des gens, des bases de données immenses avec des millions, des centaines de millions de personnes. On se met à utiliser ça pour le sourcing. Alors ça, vraiment, je pense que depuis quelques, on va dire, moi, je dirais 2 ans, on commence à utiliser massivement ces plateformes de cloud computing pour le sourcing. Je pense qu'à part la productivité et le sourcing dans le recrutement, les avancées ne vont pas plus loin. C'est déjà quelque chose de très important. Mais je compare souvent l'entreprise à l'armée. Quand on lit Le Prince de Machiavel, on comprend très vite qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une entreprise et l'armée. Puis Le Prince de Machiavel s'était écrit quand même il y a 500 ans. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc là, on est toujours des hommes, on est toujours sur des principes de base. Et qui ne change pas beaucoup. Ce qui change, c'est la rapidité probablement de l'information, et c'est notre métier ici, ce que représentons les technologies de l'information, ce qui change, c'est la rapidité. On fait pratiquement la même chose, dans l'armée aussi, on fait pratiquement la même chose, on a toujours un général, on a toujours, pour le moment, les soldats, ce n'est pas eux qui inventent vers quoi il faut se diriger et qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que dans les entreprises, c'est loin d'être changé, on a toujours besoin de direction. Le premier travail de même une start-up californienne de grande envergure, avec beaucoup de millions de financement, la première chose qu'elle fait, c'est chercher des gens et les déplacer, racheter des gens dans les autres entreprises. Donc on reste avant tout dans une organisation assez pyramidale. Maintenant, ce qui change, c'est la vitesse. Et nous, on est des facteurs de vitesse, on est en train de changer le moteur de la voiture, et on est en train de changer le moteur de la voiture du DRH. Et il roulait en 2 chevaux, et puis on est en train de lui mettre une Ferrari dans les mains, tout va très vite. Et puis, donc c'est avant tout ce que je pense que c'est ce qui change là en ce moment.
Merci Santiago. Donc on entend finalement une sorte de décalage entre, d'un côté, des usages qui ont été transformés chez les collaborateurs, qui utilisent les technologies de l'information, et puis finalement une fonction RH prise entre utopie et pragmatisme qui continue peut-être à être encore telle qu'on l'imagine, ou en tout cas telle qu'on l'imaginait, et donc plutôt focalisée sur des logiques de productivité et une représentation de l'entreprise très verticale. Alors Valérie, toi qui représentes un acteur qui fait du service, est-ce que c'est le regard que tu portes? Quelles sont les transformations que tu vois concrètement?
Alors moi je trouve que les évolutions technologiques ont accéléré d'abord et continuent d'accélérer la transformation de l'entreprise et l'agilité aussi des entreprises. En tout cas, enfin, je trouve qu'elles contribuent à améliorer à la fois et la productivité et la performance des entreprises. Elles sont aussi, et surtout, je dirais que c'est presque le point majeur, et tu en parlais tout à l'heure, une source d'innovation, une source de créativité incroyable pour l'entreprise elle-même, qui va pouvoir produire un ensemble d'innovations pour ses clients, forcément, et puis également pour les collaborateurs, parce que ça permet à une entreprise qui va développer des innovations et de nouveaux métiers, eh bien, d'offrir une mobilité interne à ses collaborateurs. Alors, les nouvelles technologies, c'est pas nouveau. L'avènement du PC, du micro-ordinateur, nous ont déjà permis, nous, par exemple, d'aider la fonction RH à s'informatiser. Le cloud, dans les années 90, on l'a déployé nous dans les années 80, fin des années 90, quand Internet s'est généralisé dans les entreprises, était également une des très grandes avancées. L'avancée suivante, ça a été quand les processus collaboratifs se sont développés, c'est-à-dire le cloud avec la décentralisation auprès des collaborateurs, ça a duré quelques années. Et puis nous, si on parle encore d'évolution technologique sur des phases majeures, évidemment, ça fait plus de 30 ans qu'on investit dans la dématérialisation, par exemple. Donc on retrouve les nouvelles technologies à différents niveaux. Ce qui change par rapport à ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait des grandes phases, en fait, avec des évolutions majeures. Et aujourd'hui, en fait, on a plein d'évolutions qui arrivent en même temps. Nous, par exemple, on n'a jamais autant innové. Sur les 3 dernières années, par exemple, on a sorti 4 innovations numériques, 4 évolutions technologiques, si on parle du numérique même. Le bureau virtuel RH, qui va permettre d'avoir un coffre-fort pour l'entreprise, mais aller bien au-delà, puisqu'il y a des fonctionnalités de partage. Le coffre-fort individuel, enfin, son pendant salarié, qu'on développe avec le groupe La Poste, par exemple. le bilan social individuel, les solutions mobiles sont quatre exemples d'innovations technologiques qui ont été déployées en très très peu de temps, enfin qui sont en train de se déployer dans les entreprises. Alors, ce qui change, ou aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, même si ça c'était sûrement un peu vrai quand même, en tout cas on le constate vraiment, et tu en parlais tout à l'heure, parce que la notion d'usage est extrêmement importante, parce que plus il y a d'évolution, bah, plus il y a d'usage à intégrer, et donc du coup plus c'est complexe, c'est qu'en fait les bénéfices en termes d'agilité, eh bien ils se mesurent à la fois sur des temps courts et à la fois sur des temps longs. Alors sur des temps courts, en fait comme les solutions, elles sont relativement bien packagées, elles couvrent un domaine assez spécifique, l'avantage, c'est qu'en fait, on va avoir des bénéfices en termes de satisfaction, de bien-être, que ce soit pour le service RH, pour les managers, mais aussi pour les collaborateurs. L'agilité, ici, elle va plutôt se mesurer en termes de réactivité. Ça, c'est le bénéfice immédiat qu'on va avoir. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, les entreprises se complexifient, elles sont plus globales, plus internationales, plus intégrées, elles subissent ces ruptures technologiques, et bah, elles subissent un certain nombre de crises successives que l'on connaît tous. Et donc, les temps longs, ça traduit le fait qu'en fait, les bénéfices, enfin, ou du moins la productivité que l'entreprise va pouvoir rechercher, et la généralisation de ses usages auprès de l'ensemble des salariés, elle est progressive, voire même parfois, eh bien, elle met plusieurs années. Et c'est ça qui est complexe. En fait, ce qui est complexe, c'est que l'individu, enfin tous, on n'est pas égaux face au changement, et donc on rencontre un certain nombre de difficultés, nouveaux outils, nouveaux usages, nouvelles communications, nouvelles pratiques de partage. Et d'ailleurs, pour citer, mais tu as déjà en partie cité une partie d'une phrase que j'avais notée dans un de tes articles sur RH Info, la coopération n'est pas naturelle et la culture du partage encore moins. On devine bien toutes les difficultés que cela va donner au DRH ou donne déjà au DRH.
En fait, tu me fais remarquer que je m'autocite, donc en fait, je radote. Quoi.
Non, tu radotes. Je ne me permettrai pas.
Non, c'est parfaitement lu, c'est large. Merci Valérie. Charles-Henri, chez Atos, est-ce que tu constates des transformations réelles dont les technologies seraient des déterminants, ou est-ce qu'on est plutôt dans une perspective qui reste encore très, très pragmatico-prosaïque?
Un peu des deux. Pour moi, le grand changement que j'ai vu dans la fonction RH, ça fait 8 ans que je dirige les services SIRH, c'est la RH elle-même. C'est vraiment l'évolution de mon métier. J'ai commencé à faire des appels d'offres de 150 pages avec des armées de gens en maîtrise d'ouvrage pour essayer de travailler sur des choix d'outils avec des RH qui découvraient la technologie. Aujourd'hui, je suis responsable SIRH d'un grand groupe de 80 000 personnes dans 48 pays, et je suis tout seul. Le SIRH a pratiquement disparu. Aujourd'hui, j'ai des fonctions RH qui sont éduquées aux technologies, qui sont capables de les déployer. Les appels d'offres, aujourd'hui, on est beaucoup plus attaché au contenu qu'au contenant. Les marchés, les grands freins, en fait, les projets du début des années 2000 ont disparu. On est sur un marché beaucoup plus nature, il y a eu beaucoup d'intégration, de rachats. Les choix sont beaucoup plus faciles pour les entreprises. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'hésiter entre des start-up californiennes et puis des spin-offs d'IBM avec des technologies des années 90. Donc vous avez quand même dans ce marché-là une certaine maturité, un certain changement qui rend beaucoup plus lisible, en tout cas en tant que décideur et promoteur d'outils dans une entreprise, qui rend beaucoup plus facile le choix des outils pour les RH. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un grand changement, ne serait-ce que dans le métier SIRH, qui était un métier un peu spécifique dans l'entreprise. Il n'y a pas de SI finance, il n'y a pas de SI achat. Et donc, désolé Patrick pour ton livre, mais je ne suis pas sûr que le SIRH va perdurer très longtemps, parce qu'on a une fonction RH qui s'est vraiment éduquée, ne serait-ce que parce que personnellement, aujourd'hui, les gens sont habitués. Donc c'est vrai que moi, j'ai démarré avec des formations. En plus, j'étais chez un éditeur il y a 10 ans, on démarrait des formations, les gens ont double-cliqué sur tous les liens. Donc c'était, voilà, ça tournait pendant des heures. Et aujourd'hui, les fonctions RH, moi, mes patrons RH, ils sont capables de comprendre les enjeux d'un déploiement d'un outil, ils sont capables de déployer. Et puis le fait qu'on soit passé vraiment, beaucoup d'outils ont commencé à décentraliser beaucoup de tâches vers les managers. Et en fait, il y a beaucoup de tâches RH, mais pas que RH d'ailleurs, en finance, en achat, etc. Les managers sont de plus en plus sollicités pour remplir des tâches, des fonctions régaliennes de l'entreprise. Et du coup, on a des communautés de gens qui sont tout à fait disponibles et adaptées à ce type d'outils. Donc on a un vrai changement par rapport à ça, et vraiment les projets qu'on a eus au début des années 2000, avec des longues implémentations, des phases très longues d'adoption, ont complètement changé. Aujourd'hui, on est capable de déployer des outils. Alors, il y a encore, je m'adresse à mes collègues éditeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on change de banque, on ne vous forme pas pour envoyer un RIB. Donc, on est encore loin, dans les entreprises, de ces niveaux-là. Il y a encore des technologies qui sont assez compliquées, qui sont très basées sur des workflows, qui sont encore très basées sur de l'email. Et du coup, on passe encore pas mal de temps essayer de convaincre en fait les différents employés d'utiliser ces outils qui sont pas, puisqu'on a décentralisé vers les managers, les employés, c'est plus le cœur de métier. On n'a plus des gens dans la fonction RH qui sont payés pour faire marcher ces outils. Il faut la clé aujourd'hui, il y a deux clés pour moi, c'est vraiment de convaincre et de démontrer l'intérêt pour l'employé et le manager d'utiliser les outils RH. Et il y a vraiment tout un travail de conviction, et quelque part le métier aujourd'hui RH, en tout cas SIRH, c'est ça, hein, c'est d'aller convaincre les managers, les employés, d'aller utiliser ces outils-là pour faire du recrutement, pour faire de la gestion de la performance, tout en n'oubliant pas que le cœur du métier, c'est quand même d'attirer un collaborateur dans l'entreprise, ou d'avoir un échange en face à face avec son collaborateur, et pas de lui faire remplir dans un outil à 5000 km de distance. Donc il y a vraiment cette notion d'adoption, qui en plus... est vraiment déterminé par le fait que les gens trouvent un intérêt, et c'est vraiment le métier de la fonction RH aujourd'hui, c'est de démontrer à ses collaborateurs, à ses employés, à ses managers, l'intérêt d'appartenir à ces communautés, d'appartenir à les communautés d'utilisateurs de ces outils-là pour que ça fonctionne. Et le deuxième point sur lequel vraiment aujourd'hui les entreprises, et notamment les entreprises internationales, sont confrontées, c'est les problèmes de données. C'est-à-dire, ces outils-là sont aujourd'hui, pour qu'ils fonctionnent, doivent dépendre d'un référentiel de données de l'entreprise. Et donc d'avoir dans une entreprise un référentiel de données unique qui est fiable, aujourd'hui, une énergie considérable est dépensée dans mon entreprise, mais je pense que ce n'est pas le cas, c'est pas que ce cas-là, c'est le cas dans toutes les entreprises, pour bénéficier de données fiables. Et les données fiables, il faut aller les chercher chez les salariés, puisque c'est le seul endroit finalement où on est certain d'avoir une mise à jour continue. Et donc la technologie qui apporte de la dématérialisation, des portails, du self-service, de la mobilité. Il ne faut pas oublier que la mobilité, ce n'est pas forcément votre téléphone, hein. C'est nous qui sommes mobiles. Hein. Donc c'est la capacité d'aller atteindre les gens à des endroits qui sont de plus en plus éloignés du cœur de fonctionnement d'entreprise, pour que, bah, au moins, la RH, et sans données, c'est extrêmement difficile pour une fonction RH de fonctionner. On attend énormément aujourd'hui, que ce soit la finance, que ce soit la direction générale, attend énormément de la RH d'avoir des données fiables. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a une grande partie de la fonction RH qui court après l'information, la donnée, pour que, un, nos outils à nous fonctionnent, mais aussi que l'ensemble de l'entreprise, parce qu'on a des processus de plus en plus intégrés, on a de plus en plus d'éléments virtuels, et il est vraiment essentiel d'avoir une donnée, une source, pas X sources de données qu'on a pu avoir quand on a lancé les outils RH. Chaque outil avait son petit référentiel, son petit modèle de données, et puis finalement on mettait à jour dans 4 ou 5 systèmes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une course à cette donnée qui est très consommateur d'énergie pour la fonction RH. Et malheureusement, ce sont des outils assez basiques, hein, de récupérer des données salariales, personnelles, de fonction, de localisation des employés, c'est pas des informations compliquées, c'est pas des technologies très avancées, mais c'est vraiment la course, en tout cas, pour une fonction RH dans une entreprise globale.
Je te remercie. Donc, il y a juste une précision peut-être, il y a combien de collaborateurs qui sont dans des modes d'organisation type télétravail et tout ça chez Atos? Il y a peut-être tu parles de maturité, il y a peut-être une population plus habituée aux technologies que ne le serait un monde purement industriel.
Oui, mais quand j'ai quitté, voilà, j'étais, oui, il y a 75 000 collaborateurs chez Atos, il y a environ 20% des gens qui ont signé un contrat de télétravail, mais ce qui, voilà, il y a des gens qui sont aussi consultants et donc nomades. C'est un bon exemple que tu dises pour construire la question du dématérialisation du bulletin de paye dans une boîte comme la nôtre. En fait, on se rend compte que même dans une entreprise technologique, finalement, le moment où le salarié vient chercher son bulletin de paye dans l'entreprise, c'est le seul moment où il y est. Et que si on dématérialise cet événement-là, finalement, les salariés qui sont consultants, nomades ou en télétravail, finalement, ne viennent même plus dans l'entreprise.
Alors, donc, il y a effectivement une maturité, et j'ai entendu deux choses que je partage complètement. La première, c'est qu'il y a de plus en plus les directions des ressources humaines. Il y a une sorte de transfert de compétences des acteurs de l'offre vers les acteurs de la demande, des directions des ressources humaines, et qui par conséquent sont beaucoup plus lucides, et peut-être lucides aussi face à des excès de discours techno-marketing que l'offre a de temps en temps, et que du coup ça oblige celle-ci à être beaucoup plus innovante et à traiter des réalités et pas simplement des effets de manche. Et c'est l'évolution, une des évolutions qu'on voit dans l'offre également. Et le deuxième point que j'ai entendu, que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est peut-être que derrière Big Data, il y a Data tout court, et que si déjà on arrivait à faire ça proprement et correctement, il y aurait bien des usages qui progresseraient. Alors on le voit, on peut faire un constat de réalité qui finalement est assez contrasté, entre un regard qui peut nous dire bah, finalement les technologies ont d'ores et déjà un certain nombre de transformations dans la réalité, donc ne serait-ce que dans le quotidien des collaborateurs, mais pas simplement de populations dites digitales natives, la réalité va bien plus loin que ça. En même temps, ne nous leurrons pas, la réalité de la fonction RH est beaucoup plus prosaïque, sauf à quelques exceptions près, quand bien même celle-ci soit-elle en train de progresser et acquérir une maturité bien plus grande au regard des technologies, elle est encore assez centrée sur des usages qui sont très productifs avant d'aller transformer en profondeur ce que sont les usages, les comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors ça c'est le constat aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut essayer d'ores et déjà d'anticiper, sans faire du Kriegsspiel, sans rentrer dans une prospective outrancière? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'identifier comme phénomène qui va arriver, ou qui vont arriver dans les années à venir? Est-ce qu'on peut anticiper des nouveaux métiers dans la fonction RH, des data scientists par exemple? Est-ce qu'il y a des technologies qui vont arriver et qui vont bouleverser encore les choses? Quelles sont les évolutions que la fonction ressources humaines doit elle-même anticiper, les difficultés qui vont se présenter, peut-être même des risques qu'il faut d'ores et déjà anticiper. Je vous donne juste une illustration, moi, qui me frappe. Je ne sais pas s'il y a des acteurs dans la salle qui font ça, je vais me faire des ennemis. Et quand je vois que de temps en temps, la géolocalisation devient un moyen de fliquer les salariés, je suis particulièrement inquiet de l'intelligence qu'on peut avoir dans l'utilisation des technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'outil rend les choses possibles que certaines choses sont plus intelligentes ou plus pertinentes. Bien, donc, sur cette partie un petit peu prospective, je te donnerai peut-être la parole en premier, Santiago, pour quel regard portes-tu sur les quelques années qui viennent, à défaut de prévision, qu'est-ce que tu anticipes et quel regard portes-tu?
Moi, je crois qu'on va bientôt avoir la possibilité de revenir à une variante du knowledge management. C'est-à-dire pas le knowledge management tel qu'on pensait il y a 10 ans, mais une combinaison de la possibilité d'analyser en fait l'ensemble des skills, d'un ensemble du savoir-faire qui existe dans l'entreprise et à l'extérieur. C'est-à-dire, on commence à avoir de plus en plus de plateformes où les gens commencent à remplir et à informer de leurs compétences sur des sujets professionnels, sur des sujets moins professionnels. On va pouvoir commencer à exploiter tout ça. Et même si encore aujourd'hui, on reçoit principalement du courrier qui est relatif, on va dire, à ce que j'appelle les caractéristiques de l'employé, c'est-à-dire aux quelques données qu'on peut exploiter, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille, et des caractéristiques qui sont patentes, qui sont faciles à obtenir, on va glisser petit à petit vers la possibilité de faire de la recherche, de prendre des décisions sur des choses beaucoup plus compliquées ou qui ont été jusqu'à maintenant presque très difficiles à évaluer en dehors, on va dire, des processus d'évaluation classique de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va être capable de mélanger non seulement l'analyse des compétences qui existent sur le marché, aussi bien son marché interne que son marché externe, mais aussi de regarder la relation entre ces compétences et la production humaine, c'est-à-dire la production et les résultats qui ont été faits dans les différents projets dans lesquels on a été, les différents papiers que les personnes ont écrites, les différentes décisions qu'ils ont prises. On va pouvoir mélanger ça aussi avec l'évaluation qu'on a eu des autres, c'est-à-dire ce fameux rating qui aujourd'hui existe pratiquement sur les sites que les sites d'achat, de plus en plus sur les sites d'achat, on dit bon ça m'a plu, on met des 3 étoiles, des 2 étoiles, on va petit à petit, progressivement, ce métier du rating, enfin cette fonction de rating va gagner les compétences, va gagner les connaissances, le savoir-faire des personnes. Et donc, le problème, en fait, on parlait tout à l'heure de tout le monde a le droit d'avoir la parole et en fait, on veut le garder. Maintenant, le phénomène d'avoir ce grand bruit qui est sur Internet et dont on a besoin de... on voit tout de suite qu'on a besoin de classer, on a besoin de classifier les paroles qui sont prises, et on a besoin donc d'une estimation de la valeur de ces paroles-là. Aujourd'hui, on suit un certain nombre de personnes, on peut suivre un certain nombre de personnes et en être intéressé, mais trouver une personne qu'on devrait suivre n'est pas toujours très facile. Et donc, c'est là-dessus que l'ensemble du réseau et la relation entre la RH, les réseaux externes et le cloud va évoluer. Alors c'est un certain problème, ça va aller à mon avis assez vite. On a un certain nombre de sites aujourd'hui qui commencent à travailler sérieusement sur ces choses-là. Alors c'est très difficile parce que les compétences humaines sont très difficiles à modéliser, mais je trouve que ça va très vite. Si déjà on a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à modéliser leurs compétences, sur le marché en tout cas, sur le cloud, ça avance, et ça avance vite.